Seigneur, merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Que la gloire te soit rendue ce soir. Seigneur, je remets chaque personne entre ta main. Je prie au Dieu de gloire afin que tu accordes à chacun d'entre nous ici présents, là où nous sommes, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur, que chacun d'entre nous sache quelle espérance attache à son appel et quelle est envers lui qui croit. L'infinie grandeur de ta puissance que tu as déployée en Christ Jésus, le ressuscitant d'entre les morts, le faisant asseoir à ta droite, dans les lieux célestes, au travers de toute autorité, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, qui puisse être nommée dans ce siècle et dans le siècle à venir. Merci, ô Dieu, de nous donner l'avantage d'avoir la révélation de l'alliance que tu as bâtie avec nous, cette alliance qui a été scellée, Seigneur, ô Dieu, par l'alliance que tu as faite avec Abraham et ratifiée, Seigneur, ô Dieu, par l'alliance avec Jésus mourant sur la croix du calvaire et versant son précieux sang pour nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Hallelujah. Donc, nous sommes à deuxième enseignement sur l'alliance de sang. Et la fois dernière, nous avons introduit l'alliance de sang. Je reviens simplement sur la définition que nous avons donnée de l'alliance. Nous avons dit qu'une alliance est un pacte ou un contrat qui est conclu avec des engagements réciproques. Une alliance est un contrat ou un pacte qui est conclu avec des engagements réciproques. Je prends par exemple le contrat que j'ai avec le caméraman. Donc le contrat, de ce contrat stipule qu'il devra être ici, n'est-ce pas, tous les mercredis à 18h, qu'il devra filmer, que l'écran géant devra être disponible pour tout le monde et qu'à la fin de l'exercice de ce qu'il a fait, que je puisse lui apporter en contribution de l'argent. Donc il a pris des engagements d'être là, de filmer, n'est-ce pas, le programme. Moi, je prends l'engagement en retour de lui donner son argent. Donc nous avons une alliance, ok, une alliance. Nous avons un pacte ou un contrat qui nous lie tous les deux. Et nous avons dit que l'alliance de sang est davantage fort parce que, n'est-ce pas, c'est qui scelle cette alliance, c'est le sang, et que dans le sang se trouve la vie, parce que la Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, la vie d'une chair se trouve dans son sang. Ok, donc la vie d'un homme ou la vie d'un animal se trouve dans son sang. Donc une alliance qui est scellée avec du sang est une alliance qui est scellée avec de la vie, d'accord? Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique. Je voudrais simplement vous dire que quand on parle d'alliance abrahamique, l'alliance abrahamique veut simplement dire l'alliance de sang bâtie entre Dieu et Abraham. L'alliance abrahamique, c'est l'alliance de sang qui a été bâtie entre Dieu et Abraham. On l'appelle aussi généralement l'ancienne alliance, ou encore, n'est-ce pas, on l'appelle l'ancienne alliance. Et même cette ancienne alliance est représentée dans la Bible par l'Ancien Testament. Vous savez, la Bible est composée de deux grands livres, de deux grandes parties. L'Ancien Testament, qui veut aussi dire l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament, qui veut dire la Nouvelle Alliance. Donc, nous allons aujourd'hui voir l'Alliance Abrahamique. Et la Bible dit, nous sommes des fils d'Abraham par la foi. La Bible déclare qu'Abraham est le père de la foi. Donc, il est important de comprendre quelle alliance a lié Abraham et Dieu, afin que Dieu puisse dire de lui-même, quand il demande « Qui es-tu ?» Il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Donc, il est important de comprendre quelle alliance Dieu a bâtie avec Abraham. Vous savez, quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit dans Genèse 3, verset 10, que l'Esprit de Dieu, après avoir parcouru le jardin, a posé la question à Adam. « Adam, où es-tu ? » La Bible dit, Dieu a dit, Adam a dit à Dieu, « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. » Donc, Adam a dit, « J'ai eu peur. » Vous savez, le mot « peur » ici exprime aussi simplement que Adam, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, reconnaissait sa faute devant Dieu. Il a eu peur de se montrer devant Dieu parce qu'il avait désobéi à Dieu. Est-ce que ça va? Donc maintenant, vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont pas peur, même quand ils ont commis le péché, ils se présentent devant la présence de Dieu sans crainte. Et vous savez, ils n'ont pas de crainte, ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Mais Adam, dans le jardin d'Éden, a manifesté la crainte vis-à-vis de Dieu. Est-ce que ça va? Et vous voyez, Dieu a été touché par cette crainte qu'Adam a ressentie dans son cœur vis-à-vis de la relation qu'ils avaient ensemble. Parce que quand Adam a été créé, Adam avait l'habileté d'écouter la voix de Dieu. Adam écoutait la voix de son Dieu. Adam causait avec Dieu. Adam était l'ami de Dieu. Vous savez, il était donc Adam connaissait Dieu. Il avait une intimité, il avait une communion avec le Seigneur. Dans le péché d'Adam, dans le jardin d'Éden, l'a séparé de Dieu, l'a éloigné de Dieu. Et donc, Dieu, en voyant l'attitude d'Adam, s'est résolu dans le cœur de faire quelque chose pour ramener sa relation avec l'homme comme elle avait été au commencement. D'accord? Et nous avons vu que dans Genèse 3, verset 21, Dieu va tuer un animal et il va couvrir, n'est-ce pas, la nudité de l'homme avec avec les vêtements de cet animal. Et j'ai dit, n'est-ce pas, que c'était là le début de la première alliance de sang que l'humanité tout entière, n'est-ce pas, va connaître. Mais je vais vous dire une chose qui est vraie. Toute vérité est parallèle. Et je vais vous dire que le mensonge n'est que la contrefaçon de la vérité. Les ténèbres ne sont en fait que les contrefaçons de la lumière. Il est très important que le mensonge existe pour que la vérité triomphe. Ok, donc c'est important ces choses. Vous voyez, vous êtes avec moi. Donc, quand Dieu a établi cette alliance dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas, avec l'homme, Dieu a tué un animal, il a versé son sang, n'est-ce pas, Dieu était en train de préparer, n'est-ce pas, quelque chose de meilleur. Parce que, maintenant, suivez-moi attentivement, il est important de comprendre que quand l'homme a péché, l'homme a perdu son autorité. Parce que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était, n'est-ce pas, le Dieu, celui qui gouvernait la terre. Vous êtes avec moi? Et quand l'homme a péché, l'homme a cédé son autorité entre les mains de Satan. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 4, verset 4, la Bible appelle Satan le Dieu de ce monde. Mais au commencement, Satan n'était pas le Dieu de ce monde, c'était Adam qui était le Dieu de ce monde. Mais comme le Dieu de ce monde, au commencement, a cédé son autorité à Satan, Satan est devenu le Dieu de ce monde. Ça veut dire que la terre tout entière a été placée sous le contrôle de Satan. Maintenant, suivez-moi, voici un mystère que je révèle. Je vais vous dire que par cet acte, la terre tout entière était sous l'autorité de Satan. Et par conséquent, légalement, juridiquement, et selon la loi, Dieu ne pouvait plus intervenir sur la terre librement. Parce que la terre n'était plus à lui. Il avait perdu le contrôle de la terre. Aussi longtemps que l'homme était celui qui gouvernait la terre, Dieu pouvait faire ce qu'il voulait sur la terre. Mais dès que l'homme a cédé l'autorité entre les mains de Satan, Dieu ne pouvait plus rien faire sur la terre sans l'accord de Satan ou alors de quelqu'un qui est placé sous l'autorité de Satan. Si je viens chez vous, le mari est le chef de sa maison. Il a l'autorité suprême chez lui. Le pasteur n'est pas le chef de la famille, c'est le mari. J'ai vu des familles où c'est le pasteur qui gouverne la femme. Ce n'est pas biblique. C'est le mari qui est le chef de sa maison. Et suivez-moi attentivement. Il y a beaucoup d'hérésie dans le corps de Christ, hein, juste pour dire. Vous voyez, si vous voulez agir dans la maison de quelqu'un, vous devez avoir son autorisation. Mais si vous n'avez pas son autorisation et que sa femme vous a donné l'autorisation, vous pouvez agir légalement dans cette maison parce que quelqu'un qui habite la maison et qui est sous l'autorité de la personne de la maison vous a permis d'entrer. Même un enfant de la maison qui vous ouvre la porte, vous n'êtes plus dans la maison par effraction. Vous êtes dans la maison par consentement parce que quelqu'un de la maison vous a permis d'entrer. Même le chef de la maison ne peut pas vous accuser d'être entré chez lui, d'avoir violé son domicile parce que quelqu'un qui habite chez vous vous a donné la possibilité d'y entrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors Dieu devait trouver le moyen d'entrer sur la terre et d'agir sur la terre en toute légalité. Sans que le diable ne l'accusât devant la cour céleste de justice. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous devez être habitué à entendre parler de la cour céleste de justice parce que Jésus est ton avocat. Et un avocat plaide à la barre. Si on est avocat, il y a barre, il y a la barre. Et il y a un tribunal. Vous êtes avec moi? S'il y a un accusateur, s'il y a un accusé, ça veut dire qu'il y a un tribunal. Donc Dieu ne pouvait pas violer les lois célestes. Parce qu'il pouvait être traduit devant le tribunal céleste pour avoir violé la loi qu'il a établie lui-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va regarder sur la terre. Il doit chercher un homme avec lequel il peut passer, par lequel il peut passer, avec lequel il aura une complicité pour agir sur la terre. Et c'est ce que j'appelle la stratégie d'infiltration militaire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la stratégie d'infiltration militaire. Parce que quand Dieu a regardé sur la terre, il a établi une stratégie militaire pour pouvoir venir sur la terre et agir en toute légalité avec la complicité de quelqu'un. Et c'est comme ça que, généralement, dans nos maisons, dans nos familles, le diable a pris ce principe de Dieu, cette stratégie militaire de Dieu, et attaque les maisons. Si vous avez dans votre maison quelqu'un qui est sorcier, légalement, le diable entre chez vous et il agit. Quelles que soient vos prières, la personne que vous avez permis chez vous, en tant que sorcier, devient la porte d'entrée. Quel que soit ce que vous faites, le diable agit légalement dans votre maison parce que vous avez ouvert la porte à Satan au travers de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, n'est-ce pas, qu'on ne trouve pas chez nous quelqu'un qui pratique la magie, quelqu'un qui consulte, n'est-ce pas, les horoscopes, quelqu'un qui, n'est-ce pas, se consulte les astres, parce que la présence d'une telle personne devient une porte d'entrée pour que l'ennemi agisse légalement dans notre maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est exactement la stratégie qu'aujourd'hui les militaires américains utilisent. C'est ce que la CIA utilise, c'est ce que le KGB utilise. Quand ils veulent agir quelque part, ils infiltrent, n'est-ce pas, l'armée étrangère, non pas par leur personne, mais par des personnes de cette armée qui deviennent les leurs, tout en gardant la nationalité, l'identité, le poste, la responsabilité qu'ils ont à cet endroit précis. Et ils fournissent toutes les informations, n'est-ce pas, à la base de l'ennemi qui viendra vous attaquer plus tard. Donc Dieu va trouver en Abraham quelqu'un avec lequel il pouvait bâtir une alliance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc, voilà, donc la Bible dit, Dieu regarde, depuis Adam, Dieu voulait bien, Dieu voulait agir sur la terre, mais il cherchait quelqu'un qui pouvait collaborer avec lui. Dans la Genèse 12, verset 1, la Bible dit, n'est-ce pas, Dieu va trouver Abraham. Et suivez attentivement ce que Dieu va dire à Abraham pour pouvoir bâtir une alliance avec lui. Il dit, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Donc Dieu parle à Abraham. Et je vais vous dire une chose, mes frères. Abraham était fils de Terach. Terach était adorateur d'idoles. Donc Abraham n'avait pas été élevé dans la foi chrétienne. Abraham avait été élevé dans l'idolâtrie. Mais voilà que Dieu voit quand même en Abraham, élevé dans l'idolâtrie, des dispositions spéciales de collaborer avec lui. Donc il parle à Abraham et Abraham va quitter son pays, il va quitter sa patrie, il va quitter la maison de son père et il va s'en aller vers le pays que Dieu lui avait montré. Parce que, n'oubliez pas, si l'autorité de l'homme avait été jetée, avait été spoliée, avait été détruite, avait été, n'est-ce pas, abandonnée entre les mains de Satan par un homme, et la justice veut en retour que ce soit un homme qui reprenne l'autorité entre les mains de Satan et non Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est l'homme qui a perdu l'autorité, c'est l'homme qui devait reprendre l'autorité, ce n'est pas Dieu qui devait reprendre l'autorité. Mais pour que l'homme puisse reprendre l'autorité, dans la faiblesse qu'il avait, il devrait faire alliance avec le grand Dieu, afin que dans sa faiblesse, il puisse être appelé fort. Parce que Dieu devait venir apporter un secours au manquement que l'homme devrait avoir. Donc, voici exactement ce qui va se passer. Et Abraham va s'en aller de chez lui. Il s'en va avec Lot. Dieu avait parlé à Abraham. Abraham s'en va. Et quand Abraham s'en va, Abraham n'oublie pas de prendre avec lui ce qu'il avait déjà comme bien. Il prend ses brebis, il prend ses bœufs, il prend même son neveu, il prend tout le monde et il s'en va. Il s'en va à la conquête de la parole prophétique que Dieu lui avait donnée. Parce que Dieu lui a dit, je te bénirai. Donc il s'en va à la quête de la bénédiction que Dieu lui avait annoncée, n'est-ce pas? Et c'est comme beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent être bénis. C'est sûrement quand on écoute l'évangile, on vient à l'église parce qu'on veut être béni. Souvent, c'est pas toujours mauvais. Mais en chemin, il y a quelque chose qui se produit et qui nous éclaire davantage. Donc, voilà que Abraham s'en va avec Lot, et puis plus tard, il a des problèmes avec son propre. Et puis Abraham dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas de guerre, je veux pas de bataille avec toi. Bon, séparons-nous parce que nous avons trop de biens. Il commence à avoir une bataille entre tes brebis et les miens, entre tes bergers et mes bergers. Donc, je ne veux pas de problème avec toi. Écoute Lot, voici le pays, choisis l'endroit où tu iras. Moi, je te laisse partir et moi, je continue ma route. L'autre va regarder, il va choisir l'endroit agréable et il s'en ira. Après ces événements, n'est-ce pas, Abraham va apprendre que l'autre a un problème. Que là où l'autre est allé, les rois l'ont arrêté. Il a fait la guerre avec des rois. On l'a tenu captif et que ses biens ont été confisqués. Abraham va retourner, il va aller combattre contre ses rois. Il va remporter la bataille. Et quand il va remporter la bataille, il va venir. Et Melchisédek va lui apparaître. Il va lui donner du pain, symbole de la parole. Il va lui donner du vin, symbole de l'esprit. Et Abraham va prendre ses biens. Il va enlever le dixième. Il va se prosterner devant Kedar Lomer. Il dit, vraiment prends la dîme de tout ce que j'ai remporté à la guerre. Je te le donne parce que je sais que ce que je remporte comme bataille, c'est l'Éternel qui avait. Moi. Vous comprenez de quoi je parle? Il honore Dieu par cet acte de foi. Et là maintenant, dans Genèse 15, Dieu va faire quelque chose. Il va provoquer, en fait, par cet acte, Abraham va provoquer la manifestation de Dieu et l'accélération du processus de l'alliance. Donc, Genèse 15, verset 1, voici ce qui va se passer exactement. Alors, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Dieu lui dit, je te bénirai. Il dit, ok, j'ai compris Dieu. Mais là, j'ai un problème. Ok? Depuis que tu m'as parlé, depuis là, je suis parti. Mais je n'ai pas d'enfant jusqu'à présent. C'est Eliezer de Damas, quelqu'un de, qui parenté à moi, qui va hériter de ma maison. Alors Dieu lui dit, et la Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. N'est-ce pas? Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, oh, il y a un mystère, il y a ce passage. Regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, Et il dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel. Je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je ce que je posséderai? En quelque sorte, qu'est-ce qui me prouve que ce que tu dis est vrai? En quoi je vais reconnaître que ce que tu dis là est vrai? Alors maintenant Dieu lui dit, ok, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham partit, prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une grande frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel lui dit, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse que Dieu t'accorde de vieillir. À la 4e génération, ils reviendront ici. Et par l'iniquité des Amoréens, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une profonde obscurité. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et les flammes passèrent entre les animaux partagés. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je te donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'au fleuve d'Euphrate. Vous savez, mes frères, je veux juste attirer votre attention sur un point. Dieu va bâtir maintenant alliance avec Abraham. Mais avant que l'alliance ne soit bâtie, Abraham pose une question. Il dit, Dieu, tu me dis que tu vas me bénir, mais je n'ai pas d'enfant. Écoutez-moi bien, vous savez, souvent la religion nous enseigne que dans tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. On ne doit pas déranger Dieu, et vous voyez, donc, mon frère, si tu n'as pas si, bénis le Seigneur, sinon. Écoute, il y a des moments où tu dois aller devant Dieu, poser des questions à Dieu pour dire, Dieu, mais si tu m'as dit que tu me béniras, pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à manger dans ma maison? Ce n'est pas insensé, ce n'est pas orgueilleux de dire la vérité à Dieu. Puisqu'en fait, si tu ne le dis pas à Dieu, tu vas quand même le dire en murmurant. Donc, autant le dire à Dieu.
Amen.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut être sincère avec Dieu. Il faut pouvoir dire la vérité à Dieu. Vous voyez, c'est important de le dire. Maintenant, suivez-moi bien, je fais le compte rendu de cette alliance que Dieu va bâtir avec Abraham. Au verset 1, Dieu lui dit, ta récompense sera grande. Au verset 2 à 3, Abraham remet en question la parole de Dieu. Il dit, il faut que certains manquements de ma vie soient comblés pour que je sache que je suis en train de bâtir alliance avec un Dieu vivant. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, je crois ceci. Abraham avait l'habitude de voir son père faire des choses avec des fétiches, puisque son père était adorateur d'idoles. Ça veut dire que Abraham connaissait certaines choses dans le mysticisme. Et il dit à Dieu, mon père, s'il était vivant, pouvait encore m'amener chez les féticheurs, où il m'a montré la voie. En allant là-bas, je peux avoir un enfant. Mais toi, tu es mon Dieu. Tu m'as demandé de partir, je t'ai suivi. J'ai abandonné ce que mon père faisait. J'ai laissé les pratiques de la maison de mon père. Je t'ai suivi, je n'ai pas d'enfant. Dieu, entre nous, c'est pas sérieux. Si tu veux que je continue, dis-moi ce qu'il en est. Et puis Dieu lui répond. Abraham, je te dis la vérité. Je ne te mens pas. Tu auras un enfant. Tu auras effectivement un enfant. Et il fait sortir Abraham. Il l'amène dehors. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Quand Abraham sort, Abraham va voir quelque chose que la Bible ne nous dit pas. Il va voir des étoiles et tout de suite, sur chaque étoile, un visage va apparaître. Il va voir le visage d'Isaac. Il va voir le visage de Jacob. Il va voir le visage de Jean-Baptiste. Il va voir le visage de Barthélemy. Il va voir le visage de tous les héros. Et au beau milieu, de l'autre côté, il va voir mon visage. Il va mon visage sur les étoiles. Amen. Il regarde, il voit les étoiles. Et il commence à être, il est tout content. Il dit, ah, voilà mes enfants. Voilà Isaac. Voilà Jacob. Oh, voilà Raoul là-bas de l'autre côté. Il me voit. Vous comprenez? Et il est content. Parce qu'il m'a vu par la foi. Et la Bible dit, Abraham a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Parce qu'il a cru. C'était comme si la chose avait déjà été faite. My goodness. Et donc, voilà maintenant, Abraham demande une garantie de ses promesses. Il dit, d'accord, j'ai vu toutes ces choses, mais qu'est-ce qui me garantit? Dieu amène Abraham et fait alliance avec lui. Pourquoi? Parce que Abraham connaissait ce que c'est qu'une alliance de sang. Dans les pratiques ancestrales, vous comprenez, juives, l'alliance de sang est couramment pratiquée, mais pas dans le sens de la divinité en crise, mais dans le sens des adorations, des idoles et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, Abraham connaissait parfaitement l'alliance de sang et il savait qu'on ne joue pas avec les alliances. Dieu lui dit, prends une génisse. Dieu lui dit, ok, prends. Donc, Dieu lui signe les animaux qu'il va prendre et il fait alliance avec Abraham. Donc, en faisant alliance avec Abraham, Abraham comprend tout de suite que Dieu va tenir parole. Donc, en fait, l'alliance venait sceller les paroles que Dieu avait déclarées. Il savait que par là, Dieu ne pouvait plus jamais revenir sur la parole qu'il a donnée. Et je vais aller plus loin, mes frères. Si Dieu t'a donné une parole, Dieu n'est pas à même de l'annuler. Dieu ne peut pas annuler une parole qu'il t'a donnée. Je reprends. Dieu ne peut pas annuler une parole qu'il t'a donnée. Le diable ne peut pas stopper une parole que Dieu t'a donnée. Quand Dieu t'a donné une parole, elle s'accomplit. Il y a une seule personne que je sais capable d'annuler la parole sur ta vie. Cette personne est ici ce soir. C'est la seule personne capable d'annuler la parole que Dieu t'a donnée sur ta vie. Cette personne, c'est toi-même. Est-ce que vous me comprenez? C'est toi seul qui es capable d'annuler la promesse que Dieu t'a faite. Personne d'autre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous savez, quand Dieu nous donne une parole, nous pouvons annuler la parole de Dieu par notre incrédulité. Par le fait de douter de ce que Dieu nous a dit, nous pouvons annuler la parole que Dieu nous a dite. Mais je voulais vous révéler un mystère. Afin que Dieu ne parle, en disant à Abraham de regarder les étoiles du ciel, Dieu avait parlé à Abraham dans Genèse 13. Il dit à Abraham, il dit, regarde la poussière du sol, telle sera ta postérité. Vrai ou faux? C'est dit dans la parole de Dieu, dans Genèse 13, verset 16. Il dit, regarde la poussière, telle sera ta postérité. Mais vous savez, en Abraham, il y a deux types de postérité. Et il y a la postérité poussiéreuse, il y a la postérité étoilée. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens discutent. Non, Dieu n'est pas un Dieu de prospérité. Dieu n'est pas un Dieu d'abondance. Dieu n'est pas un Dieu d'élévation. Dieu n'est pas un Dieu de gloire. Dieu n'est pas un Dieu de guérison. Dieu a dit, soyons simplement pauvres. Nous abandonnons toutes ces choses. Restons là que tout le monde nous piétine, que nous serons les derniers. N'ayez, écoutez, c'est normal que certaines personnes le disent parce qu'ils sont des descendants poussiéreux d'Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Ils descendent, c'est eux, c'est d'eux que Dieu a parlé avant de faire alliance. Il a cité une autre postérité. Il dit, regarde la poussière du sol, telle sera ta postérité. Mais il existe par contre une autre postérité, celle-là qui a été citée lors de l'alliance. La postérité étoilée, celle qui brille, celle qui est élevée, celle qui donne le repère, celle qui connaît la gloire, celle qui connaît l'abondance. Celle pour qui Jésus a dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais mes brebis, je viens afin qu'elle ait la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Je crois que mon Dieu est un Dieu d'abondance. Oh, mon Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Et Jésus disait, mon petit troupeau, ne crains point, car c'est mon bon plaisir de te donner le royaume. De te donner le royaume. Prends-le, il est à toi. Le royaume est à toi. Alléluia. Qu'il soit fait à chacun d'entre nous selon sa foi. Mais en ce qui me concerne, je suis la descendance, la postérité étoilée. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, ne discutez pas ça avec des gens. Quelqu'un veut qu'on lui marche dessus, il lui soit fait selon sa foi. En ce qui me concerne, je ne crois pas que Dieu ait conçu l'homme pour être un échec. Je ne crois pas que Dieu nous a conçus en tant que chrétiens pour être les derniers de la société. Je crois en l'excellence. Je crois que si Dieu m'a appelé à lui, il veut me rendre comme lui. C'est pour que je lui ressemble à Dieu. Alléluia. Amen. C'est important. C'est très important. Il est donc important de comprendre que Dieu veut que nous ayons le meilleur. Et Dieu fera tout pour que le meilleur soit manifeste pour nous. Suivez-moi maintenant attentivement, mes frères. Quand Dieu va parler à Abraham, je n'ai pas dit Abraham, mais j'ai dit Abraham. Avant que le nom ne soit muté en Abraham, qui était simplement un des points qui venait symboliser l'alliance, Dieu va dire, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vrai ou faux? Et il dit, toutes les familles, d'autres versions disent, toutes les nations de la terre. En fait, le mot utilisé pour nation et famille est le même en grec et en hébreu. Donc souvent, vous voyez, famille à la place de nation et nation à la place de famille. C'est le même mot quand on dit aller dans toutes les nations. En fait, on n'a pas dit de voyager de pays en pays, mais aller dans toutes les familles et annoncer la bonne nouvelle. Souvent, les gens veulent être évangélistes internationaux parce qu'ils ont déjà voyagé. Mais s'il y a deux ou trois familles à côté de toi qui ne connaissent pas Christ, c'est pas la peine d'aller parler en Belgique de Christ, parle de Christ là où les gens sont à côté. Amen. Donc, c'est pas parce que tu as pris l'avion que tu es un homme de Dieu plus loin que les autres. Et donc, ça dépend de l'appel de chacun. D'autres sont appelés au village, d'autres sont appelés en ville, mais que chacun fasse son appel. Et puis bon, c'est Dieu qui accorde la promotion à chacun d'entre nous. Mais en fait même, qu'est-ce que c'est la promotion dans le royaume? La promotion dans le royaume, c'est plus de responsabilité. J'ai dit que Dieu m'a donné la promotion parce qu'il m'accorde plus de responsabilité. Je dois étudier plus la Bible, je dois passer plus de temps à lire la Bible, je dois m'occuper dans la prière de beaucoup de vous, de personnes d'entre vous, de frères dans la foi, je dois encourager plusieurs pasteurs à faire le ministère, véritablement des missionnaires. Plus la responsabilité grandit, plus Dieu m'accorde la promotion. Vous comprenez de quoi je parle. Dans la promotion, c'est pas plus de costume, c'est pas plus de voiture, c'est plus de responsabilité. Est-ce que ça va? Dis à ton frère, j'espère que tu as compris ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, il dit, toutes les familles de la terre seront bénies, n'est-ce pas, en toi. Mais il n'a pas dit après toi, mais il dit en toi. En quelque sorte, l'alliance que je bâtis avec toi va faire que toutes les personnes qui découleront de toi vont jouir de la bénédiction que j'ai relâchée sur ta vie. Je voudrais ici simplement parler du mystère du transfert de la bénédiction. Le mystère du transfert de la bénédiction. Vous allez, Deutéronome 5, verset 9 à 10. Le mystère du transfert de la bénédiction. Je vais lire, Deutéronome 5, verset 9 à 10. Suivez attentivement. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne serviras point d'autre Dieu, car c'est moi l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, jusqu'à la troisième et la quatrième génération, et de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il dit quoi? Il fait miséricorde jusqu'à mille générations de ceux qui l'aiment et ceux qui gardent ses commandements. Mais vous voyez, pourquoi est-ce qu'on passe beaucoup de temps à l'église à nous enseigner la malédiction qui est transférable de génération en génération? Vous savez, j'ai vu que les pasteurs, les hommes de Dieu, passent beaucoup de temps à enseigner aux gens, la malédiction se répand, la malédiction se répand, la malédiction se répand. Et je me rends compte que les chrétiens sont plus conscients de la malédiction qu'ils ont optée par leur alliance parentale, naturelle, que de la bénédiction que Dieu accorde, qui surpasse 1000 générations. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, suivez-moi attentivement. Je vais dire des choses profondes. Est-ce que vous savez que la Bible est claire? La Bible dit que nous, toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. En quelque sorte, la bénédiction d'un père va descendre à un fils et aller jusqu'à 1000 générations. Est-ce que ça va? Maintenant, je suis d'accord que dans nos familles africaines, et même dans plusieurs familles européennes, nous avons des pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Et que nous pouvons naître sous l'emprise d'une certaine malédiction. Mais suivez-moi attentivement. La malédiction ne s'opère dans votre vie que lorsque vous n'avez pas effectivement donné votre vie au Seigneur Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes une nouvelle créature. Donc, cessez d'aller dans les délivrances. On dit non, ton arrière-grand-père avait fait ci, ton père avait fait ça. Donc, il faut venir, on va te faire l'onction d'huile, on va te faire les cures d'âme. Et en faisant ainsi, on va te délivrer de certains esprits. Je crois que, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, on devra faire excessivement attention à ce genre de comportement. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, vous voyez, les gens passent de délivrance en délivrance. Ils courent de lieu en lieu pour essayer d'être débarrassés de certains démons. Et je vais vous dire que je me suis rendu compte que les gens sont plus conscients qu'ils sont maudits. Quand vous dites non, on va vous enseigner comment combattre les 15 démons qui vous ont empêché de prospérer. La salle est remplie. Les 15 démons qui empêchent aux femmes dans la maison d'être soumises, la femme est remplie. On passe tout le temps à nous mettre la conscience des démons. Je suis d'accord que les démons existent. Je sais qu'ils travaillent. Mais je vais vous dire une chose. Plus que les démons ne travaillent, nous avons les anges de Dieu qui travaillent au-delà des démons, qui sont plus puissants que les démons. Nous avons une alliance qui est meilleure. Et nous avons dit que la nouvelle alliance, quand nous faisons une alliance, l'alliance la plus forte annule l'alliance la plus faible. Et l'alliance qui a été faite avec Abraham est plus forte que l'alliance que votre père a bâtie avec les Canaries ou avec toute autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors maintenant, si moi, je vous me demandais, qui est ton père? Vous savez ce que je vous dis? Je vais vous dire que mon père à moi, en tant qu'homme de Dieu, enfant de Dieu, mon père c'est Abraham. Et mon grand frère c'est Jésus. Dans ma famille, les gens n'étaient pas maudits. Ma famille, les gens étaient hyper bénis. Vous avez connu Salomon, c'est un de mes arrière-grands-pères. On a une famille immensément bénie. Immensement. Salomon, vous avez connu Élie? Il fait partie de ma famille Élisée. Non, David, tout ça. Même quand vous me regardez, je ressemble un peu à David, non? C'est notre famille. Nous sommes immensement bénis. Vous comprenez de quoi je parle? Nous avons une famille. Vous savez, je suis conscient de mon alliance, celle que j'ai faite avec Dieu au travers d'Abraham. Donc, je ne vois pas pourquoi je passerai mon temps à regarder cette alliance naturelle qui a été détruite, qui a été, n'est-ce pas, lessivée par la puissance de l'alliance que Dieu faisait avec Abraham, n'est-ce pas, il y a des années en arrière. Alléluia. Et vous voyez, vous devez développer cette attitude. Vous savez, Dieu ne te bénit pas parce que tu t'appelles Marguerite ou parce que tu t'appelles Benjamin. Dieu te bénit parce que tu as cru en Dieu et tu as activé l'alliance abrahamique. C'est à cause d'Abraham et non à cause de toi. Allez demander au fils d'un président, au fils de Bagbo, ici à côté, de faire les mêmes efforts que vous, il va rire. Vous comprenez? Même si aujourd'hui le pouvoir n'est plus en place, les jours sont assurés. Peut-être jusqu'à 4 générations après lui, par des comptes qui sont placés dans des endroits précis. Pour lui, c'est normal, il est né dans une famille qui a joui d'une faveur en certain moment. Mais vous savez, au-delà du président, j'ai une famille, ma famille est royale. Il y a trop de rois dans ma famille. J'ai une famille incroyable. Vous savez, vous regardez en Asie, en Europe, on a des usines partout. dans ma famille. Je vous parle sérieusement maintenant, hein. Laissons par la foi, sérieusement. En Amérique, mon père a des actions. Et vous voyez, en Asie, partout dans le monde, mon père a des affaires. Et donc, ces affaires, Dieu m'a désigné comme héritier. Et donc aujourd'hui, écoutez, c'est à cause de mon père que je suis béni. À cause de ce que mon père a fait, aujourd'hui j'ai accès à certaines choses. Et ce père, c'est Abraham. Parce que la Bible dit que Abraham est le père de la foi. Et l'alliance qui a été bâtie avec Dieu a donné à Abraham de reposséder l'univers qui avait été perdu. Oh mon Dieu, touche ton frère à côté de toi, dis tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Laissez-moi vous donner un témoignage. Un jour, je voyageais dans un bus. Et vous savez, quand je voyage, que je dois prendre un bus ou un avion, je prie. Je demande à Dieu d'envoyer la personne adéquate qu'il faut juste à côté de moi. Donc, la personne qu'il veut. Donc, il y a un monsieur qui est venu s'asseoir dans le bus. Un monsieur important, distingué, costumé, vraiment propre. Quand il s'est assis, vous pouvez voir la gloire. Je vous parle de 11 ans en arrière, il était nickel. Et donc, moi, j'étais dans un de mes pantalons jean, avec un t-shirt, et j'étais assis. Donc, quand il s'est assis, il a pris ses grands airs, il a détaché ses journaux, il a croisé les pieds, il a commencé à feuilleter. Et donc, j'ai dit, Seigneur, comment je fais pour lui parler de Dieu? Vous voyez, souvent, on a des complexes quand les personnes ont une certaine carrure. Et puis, tout de suite, il y a eu une inspiration. J'ai dit, bonsoir, monsieur. Il dit, bonsoir. J'ai dit, de tous les passagers de ce bus, vous êtes privilégiés. Il me regarde. J'ai dit, tous ceux qui restent à côté de moi, j'ai toujours le grand privilège. Il me regarde. J'ai dit, vous voyez là? Il y avait un troupeau de bœufs. J'ai dit, c'est à mon père. Le bus avance. Il me regarde. J'ai dit, mais vous ne connaissez pas mon père? Et il dit non. Et puis je regarde. Il dit, voyez le bus qui passe, c'est à mon père. Il me regarde. Vous voyez? Et donc on arrive, je vois un grand château. J'ai dit, c'est à mon père. On a des châteaux comme ça en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, en Israël. Mon père a des grandes propriétés dans le monde. Et aujourd'hui, je voulais faire une grâce à quelqu'un. Je voulais connecter quelqu'un à mon père. Je suis un des enfants de mon père. Mon père m'a simplement demandé de chercher des contacts, d'amener des personnes pour qu'ils se connectent. Il est tellement riche qu'il veut aider les gens à aller de l'avant. Et comme je vois, vous ressemblez à un monsieur qui aime la gloire, je vais vous conduire à mon père. Vous comprenez? Et donc, le monsieur était très... Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, donc, le monsieur était très émerveillé. Et puis, il me dit, mais qui est votre père? J'ai dit, attendez, je vais vous le... Ne soyez pas pressé. Et puis, j'appelle maintenant, j'ai dit, donnez-nous à boire. Donc, on vient, on sert le coca entre le Sprite, je prends mon truc, je bois. Donnez-lui ce qu'il boit. Il boit, après, je lui dis, vous savez, mon père... Je continue à parler de mon père. Et j'entretiens le mystère de mon père. Il me dit, mais qui est votre père? Vous voyez? J'ai dit, vous savez, si le président est là dans ce pays actuellement, mon père y a contribué pour beaucoup. Et si mon père veut, il partira. Et lui, il me demande, mais qui est ton père? Vous comprenez? Et plus tard, je lui dis, mon père, c'est le créateur de l'univers. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Et pour vous dire vrai, cet homme a donné sa vie au Seigneur. Amen. Et plus tard, sa femme va me rencontrer pour dire, ça fait plus de 17 ans que je prie pour mon mari. Il est venu au Seigneur juste de cette façon-là. Parce que Dieu m'avait inspiré. Amen. Vous savez, mes frères, vous devez être fiers de l'alliance que vous avez avec Dieu. Amen. Ne vous regardez pas ayant un complexe de supériorité. Soyez fiers, vous êtes ce que la Bible déclare que vous êtes. Croyez-le et cela vous sera imputé à justice. Si vous le croyez, vous le verrez. Parce que la Bible déclare, vous êtes les fils d'Abraham par la foi. Alléluia. Maintenant, suivez-moi bien. Et je parle du transfert des bénédictions. Je vais parler à certaines personnes dans la salle. Quand vous voulez accoucher, faites un effort. Avant, même si vous savez que vous êtes enceinte ou que vous allez être enceinte, prenez un temps, priez, demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Répentez-vous, consacrez-vous davantage dans la prière parce que votre disposition spirituelle va affecter la destinée de l'enfant qui naîtra. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, je parle du transfert des bénédictions. Suivez la vie de David. David était un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a commis l'adultère et en plus, il a commis un meurtre. Et il a eu un fils avec la femme d'Uri. Et plus tard, Dieu, par le prophète Nathan, va annoncer à David son péché. David va se repentir. Et il va commencer à pleurer, il va prendre un moment de jeûne. Et Dieu va faire mourir l'enfant qui était conçu dans l'iniquité. Mais juste après son jeûne et sa prière, de la même femme qui avait été prise par adultère, la même femme d'Uri, Dieu va bénir David et il va lui accorder d'avoir un enfant qu'on appelle Salomon. Et cet enfant sera le fils de la gloire et l'aïeul de Jésus. Pourquoi? Parce que avant la naissance de Salomon, David a pris le temps d'humilier son âme devant le Seigneur. Et c'est valable pour toute enfance que vous voulez mettre au monde. Que ce soit dans les affaires, que ce soit physiquement, que quel que soit le domaine où vous voulez enfanter, prenez le temps d'abord de vous sanctifier. C'est pour quelqu'un que je parle ce soir, ce matin. C'est le message de quelqu'un. Il ne faut pas l'oublier. Donc, Dieu a fait alliance avec Abraham. Vous savez, j'ai dit dans l'alliance que l'alliance de sang, les passifs et les actifs sont interchangés. C'est-à-dire, ce qui est à Dieu est à moi, ce qui est à moi est à Dieu. Donc maintenant, Dieu va éprouver Abraham, n'est-ce pas? Et Dieu va voir si Abraham respectait son alliance. Dans Genèse 22, la Bible dit, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve en ces mots en disant, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Ok? Apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Donc, il va éprouver, n'est-ce pas, Abraham, en le mettant à l'épreuve. Maintenant, vous voyez que Dieu voulait voir si Abraham lui-même allait respecter l'alliance qui existait entre eux. Maintenant, Abraham ne va véritablement obéir à Dieu et il va prendre son fils Isaac qui va conduire à la montagne de Morija, n'est-ce pas? Et quand il va arriver à la montagne de Morija, Dieu va lui dire, maintenant que je sais que tu m'aimes et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Il dit, détourne-toi maintenant et prends derrière toi un bélier. Abraham a pris le bélier et il a sacrifié le bélier à la place de son fils. Mais aux yeux de Dieu, depuis le jour où Abraham était sorti de sa maison avec son fils Isaac, Dieu considérait que Abraham l'avait déjà sacrifié. Abraham a marché pendant 3 jours avec Isaac jusqu'à la montagne. Et je vais vous dire que Jésus a fait 3 jours dans la tombe. C'est sur la montagne de Morija que Isaac était apporté en sacrifice et c'est sur la montagne de Golgotha que Jésus fut sacrifié. Maintenant, suivez-moi attentivement, suivez-moi bien. N'oubliez jamais ceci, Dieu va toujours vous trouver au niveau de votre sacrifice. Dieu va vous trouver au niveau de votre sacrifice. Il y a 2 chrétiens qui aiment le Seigneur, qui prient, qui louent le Seigneur de la même façon. Mais celui qui se sacrifie pour le royaume est plus béni que celui qui ne se sacrifie pas pour le royaume. Plus votre sacrifice est grand, plus la mouvance et la puissance de Dieu et ses faveurs sont grands. Parce que la Bible dit, on te mesurera de la mesure avec laquelle tu te seras servi. Donc si ta mesure est petite, Dieu te bénira petitement. Mais si ta mesure est grande, Dieu te bénira grandement. Est-ce que vous êtes avec moi? Le sacrifice, n'oubliez pas ça. Et vous voyez, vous devez comprendre une chose. Par cet acte, vous devez comprendre que Abraham a facilité la venue du Seigneur Jésus. Parce que sur la montagne de Morija, quand Abraham a apporté son fils Isaac, Dieu a éclairé les yeux d'Abraham et Abraham a vu Jésus qui était en train d'être immolé sur la croix de Calvaire à Golgotha et Abraham a salué le jour du Seigneur et il a béni le nom de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, voici un mystère que j'enseigne. Suivez-moi bien. Dès qu'Abraham a posé cet acte, le futur est revenu dans le présent. Et les gens de l'ancienne alliance ont commencé à expérimenter des choses que seuls les gens de la nouvelle alliance avaient droit à expérimenter. Par exemple, dans l'ancienne alliance, à cause de l'alliance abrahamique, les prophètes ont prophétisé. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui fait prophétiser. Le Saint-Esprit n'est venu qu'après la mort de Jésus. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais avant que Jésus ne vienne, les prophètes ont joui de la puissance de Dieu sur leur vie. À cause de l'alliance abrahamique. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, c'est à cause de cette alliance que Dieu a bâti avec Abraham, que la loi a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. C'est à cause de cette alliance que la loi a été donnée à Moïse. En quelque sorte, Dieu a fait alliance avec son peuple. Il voulait bénir son peuple. Alors, il a donné la loi pour que la loi puisse permettre à l'épanouissement, n'est-ce pas, de l'Église. Donc, vous devez comprendre ceci. La loi est venue pour rendre service à l'alliance. Elle est là pour, à cause de l'alliance. La loi est venue pour servir l'alliance. Donc, la loi qui a été donnée à Moïse n'est venue simplement que parce que Abraham avait une alliance avec Dieu. C'est pour ça qu'un jour, une femme qui était malade, qui avait le dos courbé, n'est-ce pas, le jour du sabbat, Jésus va guérir la femme. Et puis les gens vont dire, mais c'est pas vrai. Mais la loi dit de ne pas faire des miracles le jour du sabbat. Il dit, écoutez, il y a ici plus que le sabbat. Vous comprenez? Il dit, il y a ici une alliance. Il dit, cette femme que le diable maintenait courbée était aussi une fille d'Abraham. En quelque sorte, la loi n'a pas d'emprise sur elle à cause de l'alliance que son père a bâtie avec Dieu.
Amen. Amen.
Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez le mystère? Maintenant, allons-y maintenant, allons-y attentivement. Suivez-moi bien. C'est à cause de l'alliance que Dieu a avec Abraham que les enfants d'Israël vont être libérés d'Égypte après 430 ans. S'il n'y avait pas eu cette alliance, le peuple d'Israël allait rester captif, n'est-ce pas, en Égypte pendant toute leur vie. Mais je viens vous annoncer, mes frères, qu'ici ce soir, il n'y a plus qu'un prophète. Ici ce soir, il n'y a plus que Jean-Baptiste. Ici ce soir, il n'y a plus qu'Élie. Ici aujourd'hui, il n'y a plus qu'Élisée. Écoutez-moi, Jésus a dit, celui qui est né de tous les prophètes nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Mais tous les prophètes nés après moi, dans la nouvelle alliance, tous sont au-dessus des anciens prophètes.
Amen.
Je vais vous dire, mes frères, si Élie, Élisée ont fait des miracles, ont ramené des morts à la vie, aujourd'hui, ce soir, ici, des miracles vont se produire. La puissance de Dieu est disponible. Nous sommes dans une alliance meilleure. Une alliance qui a été ratifiée par le sang de l'agneau. Jésus a payé le prix à la croix du calvaire à Golgotha. Et ce soir, pour ta vie, il n'y a plus qu'un prophète. Est-ce que tu me comprends? Et je vais te dire, mon frère, il faut que tu crois. Ma soeur, il faut que tu crois. Ce soir, ce matin, là où tu es, n'est-ce pas, le miracle de Dieu s'accomplit dans ta destinée. Parce qu'il n'y a plus qu'un prophète. Nous avons lu la Bible. Nous avons vu les miracles que Dieu a fait avec Élie. Nous avons vu les miracles que Dieu a fait avec Élisée. Nous avons lu les miracles que Dieu a fait avec les autres prophètes. Et nous sommes émerveillés. Nous avons vu les miracles que Dieu a fait avec Moïse. Mais je viens vous dire qu'aujourd'hui, dans notre génération, Dieu est encore capable de faire de plus grands miracles. Dieu est capable d'opérer des miracles au-dessus de ces miracles-là. Parce que Dieu a changé de résidence. Et le Saint-Esprit habite au-dedans de nous. La présence de Dieu est ici. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Et je crois que par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, ta destinée change à l'écoute de ce message. Je vois la présence de Dieu, je la sens glorieusement agir dans les cœurs, changer, n'est-ce pas, les vies maintenant par le Saint-Esprit. Parce que Dieu est extrêmement fidèle. Mon frère, je veux te dire que l'alliance que tu as avec Abraham est une alliance grande, une alliance glorieuse, une alliance puissante. La Bible dit dans le livre de Galates, 3, versets 6 à 11. Je vais lire, suivez attentivement. Galates 3, versets 6 à 11. La Bible dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Quels sont ceux qui sont fils d'Abraham ici? Alléluia. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette nouvelle à Abraham. Toutes les nations, toutes les familles de la terre, les Baolés, les Bété, les Ani, les Djoula, toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Le blanc, le noir, le métis, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. Afin que ceux qui croient, bas dans ta Bible et puis tu mets ton nom. Afin que Raoul qui croit soit béni avec Abraham le croyant. Oh, alléluia. Afin que Raoul qui croit soit béni avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'en sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc c'est par la foi que nous avons accès, n'est-ce pas, aux promesses que Dieu nous a faites. Et pour clore cet enseignement ce soir, je vais lire quelque chose d'important dans Genèse 8, verset 8 à 19. Genèse 8, verset 8 à 19. Et vous allez simplement écrire la grâce de Gossen. La grâce de Gossen. La grâce de Gossen. Verset 18 à 19. Mais ce jour-là, je distinguerai le pays de Gossen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une alliance entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Donc Dieu dit, je vais distinguer mon peuple. Il parle ici à Moïse, au moment où il faut faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va parler à Moïse. Il dit, vas-y maintenant voir, n'est-ce pas, Pharaon, et demande à Pharaon de laisser partir mon peuple. Nous avons vu des miracles que Dieu, il y a eu 10 plaies. La première plaie, l'eau est changée en sang. Les Égyptiens, n'est-ce pas, ne peuvent pas boire. Les grenouilles envahissent le pays d'Égypte. Et quand vous allez voir les plaies, vous vous rendez compte que les plaies ont lieu dans le pays d'Égypte. Mais il y avait un endroit, n'est-ce pas, tout près de l'Égypte qu'on appelait Goshen. Et cet endroit était l'endroit où le peuple d'Israël habitait. Parce qu'ils étaient esclaves, n'est-ce pas, du peuple d'Égypte. Ils avaient un camp qu'on peut appeler aujourd'hui le camp de réfugiés. Et quand Dieu dit à Moïse, va-t'en, va faire le miracle contre Pharaon, il dit, je protégerai ton peuple qui est mon peuple. Et quand les plaies s'abattront sur l'Égypte, il n'y aura point de plaie qui va s'abattre à Goshen. Pourquoi? Parce que cet endroit est l'endroit où mon peuple est. Je voudrais vous apprendre ceci simplement pour clore que vous devez apprendre à jouir de la grâce de Goshen. Vous devez apprendre à jouir de la grâce de Goshen. Cette grâce que Dieu a accordée au peuple d'Israël. Et si vous lisez la Bible au moment de la 10e plaie, et c'est là où on parlera de l'institution de la Pâque, je crois que je reviendrai là-dessus pour le prochain message. Vous vous rendez compte dans Exode 12 que Dieu va demander, n'est-ce pas, à Moïse de demander au peuple de prendre chacun un agneau qui vont immoler. L'agneau devrait être immolé et le sang de l'agneau devait être mis sur les deux poteaux et sur les lenteaux. Et la Bible dit que Dieu a dit, je verrai ce signe. Le signe de quoi? De l'alliance que j'ai bâtie avec Abraham. Et quand je passerai pour détruire le pays, je ne détruirai pas votre maison. Pourquoi? À cause du sang. Vous savez, vous avez peut-être eu plusieurs techniques de prière. Vous avez prié, vous avez jeûné. Et le diable jusqu'à présent vous résiste. Mais je vais vous dire ce soir, nous allons asperger le sang sur ta vie. Et je suis certain que tu obtiendras la victoire par cette aspersion du sang. Car la Bible déclare, nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause des paroles de notre témoignage. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. L'aspersion du sang sur nos vies, afin de pouvoir, n'est-ce pas, jouir de cette grâce de Goshen. Maintenant, je vais te dire quelque chose, mon frère. Cette grâce n'est pas simplement disponible pour toi. Elle est disponible aussi pour ton père et ta mère, qui n'ont même pas encore cru. Pour tes frères qui sont païens. Parce que dans la maison, en Israël, où il y avait le sang, sur les poteaux, sur les linteaux, je suis certain que dans certaines maisons, il y avait des voleurs. Dans certaines maisons, il y avait des adultères. Dans certaines maisons, il y avait des menteurs. Mais à cause de l'alliance de Dieu, faite par le sang aspergé sur les maisons, la protection est arrivée. Maintenant, suivez-moi bien. Est-ce que Dieu cautionne le péché? Non! Mais, votre famille, qui n'a pas encore accepté le Seigneur, aujourd'hui, ne les considérez pas comme perdus, mais comme gagnés. Parce qu'à cause de vous, ils viendront au Seigneur. Ils viendront au Seigneur. Donc cessez de confesser des choses négatives, mais déclarez-les sauvés. Parce qu'en Israël, tout le peuple est sorti à cause d'Abraham. Si votre foi n'est utile que pour toi et ta femme et ta maison, alors, pauvre de toi, ta foi est minable. Ta foi doit influencer ta famille, et d'influencer ton quartier, et d'influencer ton lieu de service, et d'influencer tes amis. Parce que la grâce est contagieuse, cette grâce de Goshen. À cause de toi, qui peut être sauvé? Plusieurs, si ta foi est déployée. Car nous avons une meilleure alliance. Alléluia. Alléluia.
Vous avez été béni par le ministère du révérend Raoul Wafo et vous tenez à acquérir d'autres messages soutenus par vos dons Wafo Ministries. N'hésitez pas. Contactez-nous au 225 22 52 24 02 ou au 225 07 85 96 97. Demeurez bénis.